France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Hi, darling. I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il savait mieux que quiconque peindre les boucles blondes des enfants, le velouté de leur peau, lèvres humectées et pupilles irisées. Jean-Baptiste Greuze a mis l'enfance en lumière. Tel est le titre de la grande exposition que lui consacre le Petit Palais, à Paris, jusqu'au 25 janvier 2026. Les enfants de Greuze, c'est comme les chats sur Internet, impossible d'y résister. Faudrait vraiment avoir l'esprit mal tourné devant ces mines boudeuses pour penser à mal, non ? Quoi donc ? S'exclamait Diderot. Le pinceau n'a-t-il pas été trop longtemps consacré à la débauche et au vice ? Ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ? Courage, mon ami Greuze, fais de la morale en peinture et fais-en toujours comme cela. Morale ? Toujours ? C'était au salon de 1763 et cela fait si longtemps qu'on nous fait le coup qu'évidemment, dès qu'on nous parle de père exemplaire et de morale des familles, on a appris à se méfier. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. La cruche cassée est le titre d'un tableau que Greuze peint vers 1771 et qui affronte le regard de la jeune fille qui s'y tient devant nous, n'en sort pas indemne. C'est par cette image que l'on quitte l'exposition, seul, avec sa perplexité. Mais non, vous n'êtes pas seul. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Charlotte Guichard et de Guillaume Faroux, bientôt rejoints par la sociétaire du jour, Éléonore Chaline, et c'est maintenant dans Allons-y voir.
Autant j'ai vraiment de la sympathie pour Fragonard, j'en ai beaucoup moins pour Greuze.
Ouais, c'est pas exactement le même genre de peinture.
Ben un peu, c'est quand même un peu la même période, ceci. Il y a des sujets un peu. Mais autant Greuze est un moraliste, il voilà. Y a un côté très. Ben oui. Mais je sais pas si. Enfin oui, sûrement Fragonard. On doit pouvoir le considérer comme un. Plus comme un libertin. Mais à la fois, il y a des choses. Enfin, c'est chez Greuze, il y a des tableaux très érotiques, la cruche cassée. Enfin, oui. Mais moi, je trouve assez pervers et assez malsain.
Pervers, malsain, ben on va en discuter. C'était François Boiron qui est peintre et qu'on peut raccrocher au mouvement de la figuration libre. Charlotte Guichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, professeure à l'École normale supérieure, spécialiste du XVIIIe siècle. Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle chez Champvallon 2008, Graffiti, la griffe du peintre en 2014 et 2018 au Seuil et plus récemment Vendre son art, toujours au Seuil, avec Sophie Crass. Tels sont les titres de vos principaux livres qui tous abordent la question de la valeur de l'art, de la matérialité de l'œuvre et de l'autorité de l'artiste. Dans Vendre son art, on suit Diderot tentant de fendre la foule compacte qui se presse au salon de 1761 et s'écrit « Enfin, je l'ai vu, ce tableau de notre ami Greuze ». Mais cela n'a pas été sans peine, il continue d'attirer la foule. Vous l'avez fendu, cette foule, vous l'avez vu. Et qu'est-ce que vous avez vu ?
Lorsque j'ai vu l'accordé de village, j'ai vu un tableau canonique qu'on a l'habitude d'écrire à l'école.
Et ça, l'accordé de village, c'est le tableau dont parle Diderot. Là.
Oui, tout à fait. 1761. C'est un tableau qui est célèbre en son temps. C'est le tableau qui va faire le succès de Greuze.
Oui. Immense succès.
Un immense succès qui va l'installer comme un peintre incontournable et qui va l'installer parmi ses contemporains et au sein d'une clientèle d'amateurs. Riche, qui va assurer son succès.
Bonjour Guillaume Faroux.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre, en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines. Spécialiste du libertinage, de la peinture érotique, vous explorez l'atelier dans le boudoir, pour reprendre le titre d'un de vos articles parus dans la revue XVIIIe siècle. On vous doit des livres sur Fragonard, mais aussi une superbe somme intitulée « L'amour peintre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle », paru en 2020 chez Cohen et Cohen. Et vous avez contribué au catalogue de l'exposition Greuze, l'enfance en lumière, sous la direction d'Annick Lemoine, Yuriko Jackal et Michael Stanzo. L'un de vos textes se nomme « Le complaisant moraliste, Greuze et l'imagerie érotique ». Bon, bah, sur la cordée de village dont parle Charlotte Guichard, là, il n'y a pas d'érotisme. Là, on est bien dans la morale de Diderot. Si vous vous en voyez...
Alors, il peut y avoir une morale de l'érotique. Hein. Et à mon avis, la cordée de village, il y a une morale de l'érotique. C'est-à-dire que on a les épousailles qui sont en train de se
mais tout
finaliser.
Est charmant dans cette scène.
Alors, tout est charmant, mais tout est un peu charnel quand même, puisque déjà, les deux futurs époux sont très proches. On voit que les cordes s'accordent. D'ailleurs, Diderot a commenté la main de l'épousée, le futur épousé, qui se pose délicatement sur le poignet très vigoureux, de l'homme qu'elle aime. Et tout autour d'eux, on a la famille de la future épousée, qui est une famille extrêmement fertile, extrêmement féconde.
Et
dans le tableau, on peut lire une injonction. Il n'y a pas du tout une interdiction du plaisir, mais en sachant que sa finalité, c'est celle de la reproduction et de la fondation, enfin, de la perpétuation du système social de la famille. Mais il y a une morale de l'érotique dans le tableau. L'érotique est présent.
Bon, la cruche cassée, on va y venir, mais on va y venir comme on y vient dans l'exposition, puisque c'est le dernier tableau qu'on y voit. Ça commence gentiment, si j'ose dire, Charlotte Guichard, avec Greuze, peintre, père de famille, avec sa femme, avec ses filles.
Oui, tout à fait. L'exposition commence avec ce moment où Greuze est encore, je dirais, le peintre de l'intimité familiale heureuse, où il emprunte encore des traits au peintre flamand. Sa manière de peindre est très pittoresque. On voit qu'il est encore dans cette tradition-là avant d'aller vers des choses un peu différentes, plus gazées, plus personnelles. Donc oui, Greuze est alors le peintre de l'enfance, et en effet, hein, le XVIIIe siècle, c'est vraiment l'âge de l'enfance, celui où la littérature médicale, qui était déjà importante hein, sur les thèmes de l'emmaillotement, de l'allaitement maternel, eh bien se diffuse dans les milieux dits éclairés, grâce à Rousseau, avec Émile, 1762. Et c'est vrai que là, on voit des dessins absolument ravissants qui font signe vers Rembrandt aussi, où on voit vraiment une intimité familiale heureuse, la mère allaitante, les petits animaux domestiques qui jouent avec les enfants, les chiens, les pagnols qui circulent comme ça dans différents tableaux. Et je dirais que oui, ce moment, il est vraiment incarné en peinture par le tableau de 1755, le père lisant la Bible aux enfants, où là, je pense que là, il n'y a pas d'érotisme, il y a vraiment une morale de la famille. Et c'est vraiment le peintre tel qu'on l'attendait, je dirais, avant de voir l'exposition comme ça dans son entièreté.
Et tel que le marché l'attendait aussi, on va en parler de ce marché au XVIIIe siècle. Le père de famille et l'ordre des familles. On va parler justement du désordre des familles plus tard, mais au départ c'est ça, et c'est très important de commencer par ça, parce que c'est ce que l'on voit dans les différents salons, évidemment, Guillaume Farou.
Il y a une dichotomie hein, dans son art, puisque il a fait des... Enfin, ce qui a fait son succès, ce sont les tableaux familiaux, mais qui représentent soit la famille, disons, la version positive, avec une famille qui est clairement ordonnée autour du père de famille, qui est un père impliqué dans l'éducation des enfants et dans la transmission des bonnes valeurs et d'une morale laïque. Et puis, il y a aussi, quasiment de manière contemporaine, la démonstration par le contre-exemple. Il y a des familles dysfonctionnelles très tôt dans l'œuvre de Greuze, avec ça peut commencer par des petits tableaux comme l'enfant gâté, hein, où on voit que dès le départ les parents ne savent pas appliquer disons les règles de bonne conduite qui seraient nécessaires à leurs enfants, et ça va aller jusque une paire qui est très importante, qui est aujourd'hui conservée au Louvre, qui s'appelle la malédiction paternelle.
Oui.
Et la conséquence de la mauvaise éducation, c'est ça,
parce que en tant que père, il est évidemment très aimant, enfin en tout cas il aime à se faire voir tel. Il peint aussi sa femme, au début charmante, et puis ça se passe mal. Ça commence comme ça, encore une fois, l'exposition au Petit Palais, une vie de famille, mais qui est au fond un peu désordonnée, et par sa biographie personnelle, Charlotte Guichard, et par l'histoire, parce que le XVIIIe siècle se pose beaucoup de questions aussi sur ses pères malfaisants et ses familles dysfonctionnelles.
Oui, alors ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment à la fois Greuze va peindre ce moment heureux de la famille, et ça correspond sans doute à un moment autobiographique, et puis il y a aussi ce moment où il va peindre le roman familial dans toute sa part d'ombre, sa noirceur. Guillaume Farou évoquait le fils ingrat et le fils puni, hein, ce diptyque du Louvre, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on voulait un petit peu historiciser le rapport à la psyché, on pourrait dire que Greuze essaie de traduire en image quelque chose qui ne se formule pas encore à l'époque et qui est le problème de la psyché familiale. C'est-à-dire au moment où les Lumières inventeraient la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants, tous réunis ensemble, il découvre aussi les conflits au sein de la famille, la névrose, les tensions, l'irruption de la sexualité, oui, le départ du fils. Et donc c'est ça qui est fascinant, je trouve, c'est la manière dont Greuze arrive à peindre cette complexité, en fait, de la famille, non pas simplement dans toute sa positivité, mais aussi déjà dans sa charge négative et angoissante.
Et s'il est donc un peintre de la morale, c'est pas parce qu'il serait prédicateur, mais c'est parce qu'il l'est pleinement, comme les philosophes du XVIIIe siècle l'ont également pensé. Écoutez, puisqu'on parlait de Diderot, écoutez ce qu'en disait l'écrivaine Marie-France Brise-Lance en 2001 à la Radio Libre de France Culture.
Dans le domaine des arts plastiques, de la peinture, Marie-France Brise-Lance, on connaît Diderot et critique d'art, mais est-ce que c'était un critique d'art, un amateur de peinture, ou est-ce qu'il connaissait véritablement la peinture ?
Écoutez, comme d'habitude, oui, c'est un amateur d'art, un amateur éclairé, mais il a en même temps un goût de boutiquier, ou je pourrais même dire un goût de curé. Lorsqu'il s'esbaudit sur la peinture morale de Greuze et qu'il s'écrit « Nous avons vu assez de tétons et de culs » et que le pinceau n'a-t-il pas été assez et trop longtemps consacré à la débauche et au vice ? Un jésuite pourrait dire ça.
Bien les tétons, les
nous devons, ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous corriger et à nous inviter, nous instruire à la vertu. Ça, c'est pour Greuze, pour l'accordé de village, pour le mauvais fils puni, la malédiction du père, etc. Bon, mais ceci, on peut aisément le pardonner à Diderot, parce qu'il a tellement aimé la peinture.
On peut parler de Greuze, mais il faut évidemment parler de tous ceux qui en ont parlé, et à commencer par Diderot. Et c'est cela, effectivement, qui va former un peu notre regard, Guillaume Farou, et en particulier cette question de la morale et de la sensualité, qui est très ambivalente, en fait, chez Diderot, déjà.
Oui, et Diderot, enfin, moi je suis aussi parti du texte que vous citiez au début de cette émission, hein, où il invoque vraiment Greuze comme le peintre moral, et il dit c'est mon homme, c'est vraiment mon homme en peinture, c'est une sorte de substitut que Diderot se trouve parmi les créateurs en peinture. Il y a une relation très féconde entre les deux, puisque Diderot le fréquente, Diderot le commente, Diderot accompagne la création, je suis pas sûr qu'il l'inspire, mais il accompagne la création et la genèse des grands tableaux de Greuze. Quelque part, Diderot, il est à la suite de Greuze, parce qu'on met souvent en relation le drame bourgeois, enfin la théorisation du drame bourgeois que Diderot propose dans la deuxième partie des années 1750, hein, après la publication de sa pièce Le Fils Naturel et les entretiens sur le Fils Naturel. Mais en fait, les premiers tableaux de Greuze qui mettent en scène la famille, et dans une situation dramatique, on l'a cité, hein, c'est la lecture de la Bible, et il y a d'autres tableaux, les écosseuses de poids, enfin, qui sont antérieurs, en fait, oui, à ces textes. Et quelque part, Diderot va théoriser quelque chose que Greuze a su mettre en image, mais qui est même antérieur, puisque Greuze, lui, il est très très imprégné par la littérature de son temps, par le roman. Et il y a un romanesque bourgeois qui est très important, notamment avec Hamilton, avec Clarisse Harlowe, avec ses romans qui pensent quand même les relations entre les familles et les relations troubles entre les familles, la morale, mais aussi les questions de sexe, de viol, etc. C'est présent dans les textes d'Hamilton. Et puis, tout bêtement, en fait, le genre théâtral qui a beaucoup de succès quand Greuze commence sa carrière, c'est la comédie larmoyante. Et la comédie larmoyante, c'est le drame bourgeois avant le drame bourgeois. Oui. Il y a vraiment déjà de ça, et qui s'intéresse à la famille, relations entre la famille. Et Greuze, c'est le premier qui, au fond, extirpe les scènes familiales qui existent auparavant, qui sont soit des scènes de bambochade, soit des scènes parodiques, soit des scènes de pastorale, des scènes idylliques. Là, pour le coup, il les incarne et en s'intéressant vraiment à ces questions de morale qui sont tout à fait contemporaines.
Et c'est pour ça qu'il met l'enfance en lumière. L'expression n'est pas usurpée, mais on comprend bien Charlotte Guichard qu'il y a un jeu à trois, en somme, avec voilà son propre génie pictural, avec toute cette culture littéraire, philosophique et théâtrale dont parle Guillaume Farou, et avec le marché, parce que il faut bien faire avec ce marché, c'est avec le marché aussi que Greuze, vous l'avez montré dans le livre dont je parlais, Vendre son art, a à faire.
Oui, parce que en fait, alors comme le disait Guillaume Farou, ce qui est très intéressant avec Greuze, c'est que il va vouloir peindre le contemporain. La société contemporaine. Et à cet égard, il est un petit peu, il s'inspire des Anglais. Moi, je pense aussi à William Hogarth, en Angleterre. Je pense au Rake's Progress dans les années 1730. William Hogarth, qui déjà connaissait un immense succès comme Greuze dans les années 60, parce que il dépeint la société anglaise, les vices, les vertus des jeunes femmes, des jeunes hommes, des familles, etc. Et pourquoi est-ce que je parle de Hogarth? C'est parce que Hogarth, c'est aussi quelqu'un qui s'est tourné vers le marché, vers le premier marché, le marché de la gravure. C'est quelqu'un qui a sécurisé le droit de reproduction en mettant en place ce qu'on a appelé le Engraver's Copyright Act 1735. Et je pense que là, il y a vraiment un parallèle entre Hogarth et Greuze sur la manière à la fois de s'adresser à la société de son temps et en même temps de s'adresser donc à un marché. Parce que s'adresser à la société de son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place une iconographie qui fonctionne, mais c'est aussi trouver des débouchés pour sa peinture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Greuze, à partir de 1760, refuse d'exposer au salon puisqu'il n'est pas reçu à l'Académie au titre de peintre d'histoire, ce qu'il ambitionnait. Et donc, il se détourne du salon et donc il va devoir trouver des modes de rémunération nouveaux, inédits. Et donc, le marché, c'est le marché des amateurs qui vont lui acheter ses peintures. Et donc, il va mettre en place véritablement une iconographie qui va se reproduire, mais c'est aussi un marché de la gravure qui, là, s'adresse à un marché, un public plus large et qui va contribuer, bien sûr, à sa fortune.
Le marché, le salon, la cour, l'académie, on voit effectivement se configurer un espace social, Guillaume Farou. Alors l'académie, c'est intéressant parce que effectivement, on peut aussi, là, on est dans la success story en fait de Greuze. Enfin, il a eu quelques échecs retentissants, en particulier en tant que peintre d'histoire, et ça c'est intéressant aussi pour notre sujet. Il y a deux tableaux en particulier qui disent déjà au fond l'ambivalence du rapport entre le père et le fils, à commencer évidemment par cette affaire, l'affaire Caracalla. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Alors là, tableau qui s'appelle Septime Sévère reprochant à son fils Caracalla d'avoir voulu l'assassiner, on comprend qu'il reste ce reproche.
Oui, voilà. C'est normal.
C'est le tableau que Greuze ose proposer comme morceau de réception auprès de l'Académie. Un morceau de réception, c'est vraiment le dernier diplôme qu'un artiste se doit de passer pour devenir un académicien à part entière.
C'est un carnage critique.
C'est un carnage critique parce que, alors déjà, Greuze était assez désinvolte parce qu'il a été reçu très tôt, dès 1755, alors qu'il n'était même pas aspirant. Il est agréé auprès de l'Académie, ce qui veut dire qu'il peut exposer régulièrement ses tableaux, et il s'en prive pas. Il expose très régulièrement à chaque salon, il a énormément de succès, ce qui irrite un petit peu, ou en tout cas qui peut susciter la jalousie de ses camarades de l'Académie. Et en gros, il a pas tellement envie de se faire recevoir, en tout cas, il traîne. Et on lui signifie qu'il est temps. Donc, il finit par proposer un tableau, mais pas du tout dans la catégorie qui est celle qu'on lui a assignée, qui est le tableau de genre. Donc, éventuellement, enfin, ce qui veut dire les tableaux qui représentent des scènes de la vie domestique et plutôt contemporaine. Lui, il veut s'attaquer au grand genre, donc la peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture ambitieuse, littéraire, qui ose aborder soit la grande histoire antique, soit la mythologie, soit quelques grands textes canoniques tirés du canon littéraire ou de la Bible. Simplement, il choisit un épisode, qui est un épisode assez obscur. Et là, je dois citer deux des commissaires de l'exposition, Annick Lemoine et Michael Zanto, qui, déjà en 2004, avaient consacré une exposition passionnante à ce tableau. Et normalement, un grand tableau d'histoire doit fournir un exemple de vertu, un exemplum virtutis. Et eux avaient démontré à l'époque que, encore une fois, il fonctionne par le contre-exemple. Il fait un exemplum debilitatis, donc un exemple de défaite, un exemple de mauvaise conduite. Et effectivement, donc, il fait le choix de cet empereur qui reproche à son fils, futur empereur, d'avoir déjà une conduite criminelle.
On a un Caracalla boudeur.
On a un cas. Avec comme un enfant, d'ailleurs, qui a un doigt dans la bouche.
Oui, qui a fait une bêtise.
Voilà, qui du coup s'est fait.
Son père, hein.
Et son père est assis sur son lit. Il lui reproche d'avoir tenté de l'avoir assassiné. Et on est vraiment dans le contre-exemple. Enfin, et surtout avec les conséquences. C'est-à-dire que là, c'est un futur empereur qui va être un empereur absolument terrible.
C'est toute cette histoire, Guillaume Faroux et Charlotte Guichard, qui amène Greuze à peindre des enfants seulement. Voilà. Le problème, c'est que quand on peint des enfants, eh bien, on se heurte à une difficulté qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et dont nous parle Mathieu Pot-de-Bonneville, qui nous envoie des cartes postales, parce que faut pas l'oublier, c'est quand même le directeur du département culture et création de Beaubourg.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, Chivichanas, La Havane, Parole, Kharkiv, Step on a Crack, Hong Kong. Ce sont quelques-unes des mentions qui permettent de se repérer ou de s'égarer parmi les 50 vidéos auxquelles l'artiste Francis Alice donne librement accès sur son site personnel, même si ces vidéos figurent aussi dans les collections des plus grands musées d'art contemporain du monde. Pour chacune de ces séquences, se trouvent répertoriés le lieu et le jeu. Car c'est de jeux dont il s'agit, des jeux d'enfants. Et la série de vidéos intitulée « Children's Game », qui les documente depuis 1999, a fait la renommée internationale de cet artiste. De ces jeux, certains sont typiques du lieu où ils furent recueillis. Par exemple, la Chivichana, c'est cette planche de récupération que les enfants cubains équipent de roulettes pour dévaler les rues. D'autres fois, c'est l'époque qui importe. Parole nous montre des enfants de Kharkiv qui, revêtus de vieux treillis militaires, improvisent un checkpoint et s'appliquent à débusquer les espions russes en faisant prononcer aux passants des mots en ukrainien où leur accent pourrait les trahir. D'autres fois encore, par exemple dans la minutie avec laquelle cette fillette de Hong Kong enjambe le rayure d'un passage piéton sans que ses pas effleurent la surface peinte. Dans cette vigilance de ballerine guettant chaque fissure du sol, nous reconnaissons d'anciens gestes. Lorsque nous-mêmes nous nous appliquions à ne poser nos pieds sur aucune rainure, faisant semblant de croire que transgresser cette règle susciterait quelque malédiction. Comment regarder des enfants? Comment faire d'enfant une matière d'image sans enrôler cette vision dans une perspective qui d'emblée la déforme, la rabaisse ou l'exalte? Comment ne pas vouer les enfants à devenir tantôt des proies et tantôt des emblèmes? Voilà ce que Alice nous enseigne. C'est une tâche pour aujourd'hui, parce qu'il nous faut à la fois prendre toute la mesure de l'ampleur des violences faites aux enfants et refuser de voir pour autant leur image instrumentalisée, brandie en étendard d'une cause de l'innocence dont les motivations sont parfois bien suspectes. Peut-être faudra-t-il, à l'exemple du male gaze, du regard masculin, théorisé par Laura Mulvey dans le champ des études féministes, peut-être faudra-t-il interroger l'adult gaze. Et c'est aussi, depuis qu'a éclaté l'aveuglement autour des œuvres et des pratiques d'un Claude Lévesque, c'est aussi une question pour l'histoire de l'art. Pour ma part, si l'œuvre de Francis Alice au contraire me bouleverse, c'est que l'attention qu'il porte depuis un quart de siècle à la mémoire visuelle des jeux d'enfants enveloppe une triple leçon, comme trois manières de donner sens à l'expression « jouer dehors ». Premièrement, Alice témoigne d'un monde de règles auxquelles les adultes n'ont aucune part, de rituels transmis non verticalement, sur l'axe des âges de la vie, mais latéralement, et depuis des siècles parfois, d'enfance à enfance. Pour autant, deuxième leçon, les enfants joueurs d'Alice n'ignorent pas le monde des adultes. Ils s'appliquent à y trouver le point d'appui d'autres usages, à le rebroder de règles secondaires qui en font dévier le cours. Jouer, c'est chaque fois déjouer l'espace urbain, y tracer un chemin à taille d'enfance, autrement dit, retourner comme un gant l'assignation d'une signification adulte au geste enfantin. Investissement proprement politique de la ville, dont Alice souligne qu'il se fait de plus en plus rare, surveillé, quadrillé. Dernière leçon. Rappelez-vous, nous le savions bien, Patrick, que le ciel ne s'ouvrirait pas si nous marchions sur une fente du trottoir. Les jeux d'enfants ne riment à rien, et les vidéos qui les restituent ne s'alourdissent d'aucun symbole. Aristote soulignait que seules deux activités sont à elles-mêmes leur propre fin, le jeu et la contemplation. Contempler les jeux d'Alice suspend avec sérieux la tyrannie du sens. C'est la morale de leur beauté.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Les jeux d'enfants, oui, mais parfois aussi, et de plus en plus, les enfants victimes des jeux des adultes. On a retardé un peu dans cette émission l'affrontement avec justement l'image qui va nous arrêter maintenant, la cruche cassée. Je vous en donne une reproduction, Charlotte Guichard. Qu'est-ce qu'on voit ?
Oui, alors on voit un tableau de forme ovale, une jeune fille, très jeune, on dirait aujourd'hui une pré-ado, qui se tient debout, qui nous regarde. Elle a le regard un peu triste ou mélancolique, on ne sait pas trop. Elle est très belle, elle a le teint blanc, les joues roses, les lèvres roses. Elle porte une grande robe blanche avec de lourds plis. Ses mains crispées au niveau du bas-ventre retiennent les plis de sa robe. Et dans les plis de sa robe, elle tient une couronne de fleurs roses devant le bas-ventre. Et ces fleurs roses font écho à une rose qui est posée sur le sein droit, tandis que le sein gauche est découvert. On voit le mamelon rose qui a fleur de la robe dans le décolleté, et puis une écharpe une translucide qui la dévoile autant qu'elle la couvre. À gauche, elle porte une cruche cassée avec un trou au milieu. Et puis à droite, cette fontaine dans l'ombre, menaçante, avec une tête de bélier dans le fond, et une tête de lion, d'où sort un jet d'eau.
Voilà pour la cruche cassée, 1771-1772, la cruche cassée. Ça fait pas de doute, elle a subi une violence sexuelle. Guillaume Farou, on est entre 1771-1772. Ce qui commence à être évidemment très troublant, et l'exposition redouble ce trouble, donne à voir deux esquisses de ce tableau où le pathétique est plus fort dans les esquisses, hein, où on voit qu'elle est comme une poupée démantelée, que son regard est effrayé. Et puis c'est plus fort que lui, Guillaume Farou. Enfin, il peint si bien, elles sont si belles, qu'il y a une sensualité. Enfin, qui est plus forte en tout cas dans le tableau que l'on voit que dans des esquisses.
Ce qui fait pas de doute, en tout cas pour les contemporains, dans la réception, parce que ce tableau était quand même pas mal commenté, c'est effectivement il y a eu rencontre sexuelle et il y a eu viol. Ce qui est plus problématique, c'est l'empathie qui s'exprime ou pas avec la jeune victime.
Madame Roland, par exemple, je vous coupe. Tout ce qu'on serait en droit de reprocher à Monsieur Greux, c'est de ne pas avoir fait sa petite assez fâchée pour qu'à l'avenir, elle n'ait plus la tentation de retourner à la fontaine. Je le lui ai dit, la plaisanterie nous a amusés.
Alors c'est d'autant plus glaçant que Madame Roland, elle explique dans ses mémoires, elle, qu'elle était victime d'une agression sexuelle. Donc là où on pourrait se dire, il peut y avoir une forme d'empathie, pas du tout. C'est-à-dire que cette image, elle la reçoit comme la plupart de ses contemporains, c'est-à-dire comme, au fond, c'est un des poncifs de l'imagerie érotique, qui est celle du viol, de la jeune fille, généralement de classe populaire, et c'est une situation qui est généralement présentée de manière extrêmement complaisante, avec un sourire, j'adore Fragonard, mais effectivement, dans l'œuvre de Fragonard, on a beaucoup de ces représentations, des dessins, notamment un très beau dessin qui est au musée Cognacq-Jay, Les Tables, où là on voit vraiment une scène de viol. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Greuze, alors je voudrais pas qu'on le limite. Chez Greuze, il y a des images complaisantes. Il y a des images de jeunes filles dénudées, etc. Là, pour le coup, c'est effectivement, dans le tableau définitif, c'est l'espèce d'aphasie du visage qui, pour nous, renvoie à un concept qui est moderne, celui d'assidération. C'est-à-dire qu'on pourrait le comprendre comme ça. C'est-à-dire que je vois Charlotte Guichard qui deline, qui n'est pas d'accord du tout, mais on pourrait le comprendre comme ça. C'est-à-dire il y a un certain nombre de tableaux qui, aujourd'hui, peuvent nous sembler extrêmement violents. Je pense aussi au Verrou de Fragonard, où là aussi, on a une scène qui, quand même, très clairement, semble être une scène d'agression sexuelle, où le visage, je ne parle pas du corps, où le visage de la jeune femme, de la victime, est extrêmement, enfin, curieusement inexpressif. Au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, dans le cadre de l'Académie, tous les peintres savent, mais vraiment à l'émotion près, doser l'expression. Et là, pour le coup, on fait le choix d'une non-expression, donc quelque chose...
Elle en avait une dans les esquisses, elle n'en a plus.
Oui, y a...
Et justement, on fait le choix. Je ne sais pas si c'est une censure. Je pense que ça peut être aussi une adresse. C'est-à-dire que ça peut être aussi le choix de...
Charlotte Guichard.
Oui, moi je pense qu'il y a en effet une forme d'euphémisation de la violence entre l'esquisse et le tableau. Il faut savoir qu'il y aura une réplique qui sera en la possession du marquis de Véry, qui est lui-même le propriétaire du verrou de Fragonard. Donc il y a un public pour ces toiles. Donc il y a une forme d'euphémisation du viol. Et il y a plutôt, je pense, une adresse à la fois sentimentale. Il y a une forme de, il y a un érotisme diffus qui se mêle à une forme de sentimentalisme. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est une peinture qui s'adresse à une clientèle.
Ben
et
voilà.
Que c'est cet érotisme-là qui plaît. Et que la question qui se pose, c'est celle de la position de Greuze là-dedans. Là où je suis pas sûre d'être d'accord, c'est que je suis pas sûre qu'il y ait une dénonciation dans le tableau.
Je pense pas du tout que Greuze dénonce quoi que ce soit. Après, il peut figurer le problème. Alors, du coup, ça va dans le sens de Charlotte Guichard, mais il y a deux tableaux que moi je trouve très intéressants. Ce sont des tableaux qu'il n'a pas menés à terme. Mais ce sont des compositions qu'il a quand même poussées assez loin. Il y a un tableau qui est au Metropolitan Museum, qui est considéré comme une scène de séduction mythologique. On pense que c'est Danaé et Jupiter, probablement. Et on voit une jeune fille qui est couchée sur un lit, avec une vieille femme qui est en train de la dénuder, et Jupiter sous sa forme d'aigle qui apparaît. Et là, on voit très clairement qu'elle n'est pas d'accord du tout. C'est-à-dire le corps est extrêmement rigide, l'expression signale l'effroi. Et ça, c'est extrêmement rare dans la production de l'époque. Et on a aussi un autre tableau qui représente un Lot et ses filles, qui est conservé au musée du Louvre. Et là, on voit tous les personnages avachis après post-coitum. Et on a un des personnages, une des jeunes filles, qui est dans la pose de la mélancolie. Donc qui pose quand même une sorte de distance, voire de critique par rapport à ce qui est présenté.
Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirai mes poupées, qui ne sont plus que des chiffons, mais je me souviens de leurs noms et des secrets qu'elles racontaient. Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirai la maison où mon père m'a embrassée, peut-être plus que de raison. Si l'on pouvait vraiment parler, 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 je te parlerais des miroirs qui renvoyaient mes cheveux blonds, qui me faisaient ma de ce que voulaient les garçons. Si l'on pouvait vraiment parler, je te dirais comment je l'ai rencontré, comment j'ai changé de famille tout en restant petite fille. Au fond, rien n'a vraiment changé. Si l'on pouvait vraiment parler, jamais pleuré, sauf quand je suis très énervée, et qu'il ne sait pas dire qu'il m'aime, mais ce n'est pas un vrai problème. Si l'on pouvait vraiment parler, je dirais que la vie s'est elle-même chargée de me fabriquer un bonheur dont je ne sais pas profiter.
Je pouvais vraiment parler, France Gall, 1974. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas parler. La très jeune fille à la cruche cassée, Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une très jeune fille, Charlotte Guichard. Et ça, ça change beaucoup de choses, au fond, cette nouveauté, en fait, en peinture.
Oui, l'impression qu'on a, c'est que Greuze met en place une formule iconographique, en réalité, qui est complètement nouvelle, c'est-à-dire ce portrait de la très jeune fille, comme je le disais tout à l'heure, on dirait aujourd'hui la pré-ado, en tout cas de la jeune fille qui rentre dans l'adolescence.
Elle n'a pas la tête de son corps.
Qui n'a pas la tête de son corps, et c'est noté à l'époque par les critiques. Et cette iconographie, c'est vraiment le portrait, avec cette gaze romantique qui entoure la peinture, avec ce glacis que Greuze maîtrise parfaitement, ces mélanges de rose, de blanc, ces linges blancs à la fois transparents, qui dévoilent, qui retiennent, ces cheveux parfois lâchés, comme ici la jeune fille qui pleure son oiseau mort dans la version 1800. C'est ça aussi qui jette le trouble, c'est que Greuze va proposer ce motif, qui est un motif nouveau, parce qu'il plaît. Et parce qu'il plaît en raison de son ambiguïté, de son ambivalence, parce que le regard qui se pose sur lui, sur ce tableau, sur ses portraits peut-être, tantôt moralisateur, tantôt prédateur,
oui.
Et que Greuze va savoir à merveille exploiter cette formule-là, je le dis et je le redis, parce que là aussi, il s'adresse à des gens, hommes et femmes, car la cruche cassée était dans la propriété de Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV, ce qui complique aussi les choses.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressante la formule de Mathieu Pot-Bonneville, qui, plutôt que de male gaze, auquel je souscris tout à fait par ailleurs, mais parle d'adulte gaze. Et donc, quel regard d'adulte peut-on poser sur ces jeunes filles? C'est toute la question que pose la peinture de Greuze. Une peinture qui a un héritage important. Moi, quand je regarde ces portraits, je pense aux photos de David Hamilton.
Oui, et toute la difficulté, au fond, c'est de faire la part entre la sensualité de la peinture et l'ambivalence du regard. Bah, écoutez, Myriam Kahn, c'était au micro de France Culture le 29 juillet 2023, l'artiste suisse américain.
Moi, je trouve très difficile de différer dans des images, surtout quand je les fais moi-même, si c'est un viol ou pas. Naturellement, un viol, ça, pour moi, c'est absolument négatif. Mais c'est difficile à différer aussi, même dans notre vie. Parce que si tu as subi un viol, tu vas à la police, tu dois garder tout ce que tu veux enlever tout de suite. Et c'est la même chose avec les images. Il y a des images où c'est pas clair. Où c'est pas clair. J'ai fait un texte qui est nouveau, qui est dans l'expo, où je parle exactement de ça, du réalisme. Le réalisme ou pas. C'est réalistique ou pas, ce que je montre. Moi, je trouve qu'il faut montrer le sexe, les seins et tout ça. Il faut le montrer pour qu'on voit de quoi il s'agit. Mais après, quand c'est fait, ça doit être aussi fait d'une façon que c'est pas clair. Parce qu'on peut interpréter. Et les gens qui regardent ça, les personnes qui regardent ces peintures ou bien ces images ou bien ces dessins, c'est leur histoire, peut-être, en regardant qui leur vient en tête. Si ça marche, je trouve déjà super.
Alors, Myriam Kahn, c'est donc une peintre suisse dont le travail vise à rouvrir les yeux sur les guerres dans le monde. Et l'exposition dont elle parle, c'est celle du Palais de Tokyo en 2023, qui était intitulée « Ma pensée sérielle » et qui évoquait les violences, et notamment les viols de guerre en Ukraine. Et il y avait un tableau en particulier, « Fuck Abstraction », qui représentait de manière réaliste, justement, une fellation forcée qui avait été accusée par des association de protection de l'enfance proche du Rassemblement national d'apologie de la pédopornographie. Ils avaient tenté d'enlever le tableau. Une ordonnance du 14 avril 2023 du Conseil d'État, enfin plus exactement du juge des référés, avait estimé qu'il y avait tout ce qu'il fallait autour du tableau pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'était à la suite de cette décision de justice qu'un ancien élu du Front National a aspergé le tableau de peinture violette le 7 mai 2023. Et donc, le son qu'on a entendu, c'est quelques semaines après. Je dis tout ça parce que c'est, Charlotte Guichard vient de le dire aussi, Guillaume Farou, à la lumière sombre de ce contemporain qu'on voit inévitablement aujourd'hui, Greuze, et on doit se poser la question de savoir, alors, est-ce qu'il peint pour s'indigner ou un peu pour être complaisant?
En tout cas, je pense qu'il peint, enfin, il n'est pas du tout univoque. Il n'est pas le seul du tout à représenter des très jeunes femmes, des très jeunes filles dans des situations érotiques à l'époque. Enfin, je pense à Fragonard, j'adore Fragonard, mais généralement, elles sont représentées avec un visage qui est très souriant, complaisant, etc. Ce qui me semble intéressant dans les images de Greuze, c'est qu'il y a pour certaines d'entre elles, cette gravité. Et le débat que nous avons, les contemporains l'ont eu. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des gens pour s'interroger sur l'âge du modèle, s'interroger sur la pertinence. Est-ce que c'est une image sexuelle ou pas du tout? Est-ce que nous, avec notre regard d'adulte, nous surinterprétons? Diderot le fait un peu, puis très vite...
Il passe à autre chose.
Il choisit la part sexuelle et il le fait même de manière difficilement recevable pour nous aujourd'hui. Et il y a surtout une des grandes spécialistes de Greuze aujourd'hui, qui est Emma Barker, qui écrit aussi dans le catalogue de l'exposition, qui a posé la question de la réception de ces images. Et déjà à l'époque, c'est une image qui sont une réception qui est quand même loin d'être univoque, qui est loin d'être... ou complaisante, ou dénonciatrice, mais qui est un peu des deux. Je voulais juste dire aussi que les œuvres de Greuze, elles sont très particulières dans l'histoire de l'appréciation du viol au XVIIIe siècle. Là, je renvoie juste aux travaux de Georges Vigarello, mais c'est à partir des années 1760 que le viol est théoriquement un crime et très lourdement puni au XVIIIe siècle. Mais généralement, il est toujours vu, pas tellement du point de vue de la victime, mais du point de vue, c'est une atteinte contre l'homme dont elle dépend, son mari, son frère, son père. Et il y a dans des œuvres littéraires, justement, je parlais d'Hamilton, Clarisse Harlow, c'est un très bon exemple, avec une histoire qui est vue du point de vue de la victime et avec donc tous les ravages que le viol lui cause, mais aussi autour d'elle. Et il y a aussi Beaumarchais, en fait. Oui. Dans Le mariage de Figaro, on est vraiment dans cette question, vraiment, de la prédation masculine. Et chez Beaumarchais, il y a une dénonciation claire avec le long monologue de Marceline qui vraiment met en cause les hommes qui sont les responsables, en fait, du déshonneur et de la difficulté des femmes. Et ça, elle le fait. Alors, Greuze, il fait pas tout ça, mais je pense que sa peinture, elle est riche de ça aussi. Et une forme de gravité dans son œuvre en témoigne.
Et évidemment, on a commencé par le peintre moraliste, par cet ordre des familles. Là, on est dans le désordre des familles, pour le dire, avec Michel Foucault et Arlette Farge. Mais peut-être aussi, Charlotte Guichard, il y a toute l'ambivalence de ce siècle des Lumières, on a bien compris. Il y a peut-être aussi un père inquiet.
Tout à fait, il y a aussi une forme d'anxiété. Qui traverse cette peinture. La part autobiographique dans la peinture de Greuze, là aussi, elle est intéressante, elle est un peu indécidable. Il a eu deux filles, oui. L'une qui est devenue peintre, qui a peint une jeune fille, une jeune enfant qui pose la main sur sa poupée, sur la bouche de sa poupée. Voilà, un tableau qui donne à penser, là aussi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... Voilà, c'est ce rapport aussi peut-être autobiographique, sans doute autobiographique, dans l'œuvre de Greuze qui vient nourrir de manière sans doute extrêmement sensible sa peinture. Et c'est ce qui la rend aujourd'hui actuelle, et car complexe.
Ça, c'est le peintre sensible, mais pas au sens de la sensibilité de Rousseau, mais d'une certaine manière de la nôtre.
Autrement, de la nôtre.
Ouais. Vous dites c'est un peintre en colère.
Moi, je pense que c'est aussi un peintre en colère. Il est grinçant, il est en colère contre lui-même, contre la société qui le rejette. Il y a aussi une lecture qu'on peut faire sociologique en termes de classe. Greuze, c'est le fils d'un couvreur de Tournus. Un petit peu comme Diderot, fils d'un lui aussi, hein, pas très loin, d'un coutelier. Il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une forme de révolte sociale. Il rentre pas bien dans cette société d'ancien régime. Son mariage avec la fille d'un libraire riche, est un échec total. Il n'arrive pas vraiment à rentrer à l'académie comme il le voudrait. Il se tourne vers d'autres formes de reconnaissance. Et oui, au total, on a l'impression d'un être fracturé, fragilisé. Mais qui arrive à exprimer les souffrances et les ambiguïtés et la violence de son temps.
Here I go again, up and down. All my friends went home years ago. All my toys are broken, and so am I inside, Mom. The carnival has closed years ago. Mm-hmm.
Years Ago par Alice Cooper. C'était 1975, c'est un an après France Gall. Bonjour Éléonore Chaline.
Bonjour.
Alors, ces histoires d'enfants, de scènes de famille, vous êtes une historienne de la photographie du 19e siècle, inévitablement, il doit y avoir quelques échos, non ?
Je ne vais pas parler de David Hamilton, mais c'est vrai qu'il y aurait tout un chapitre qui, d'ailleurs, ça a été le cas, a été développé dans les derniers temps de recherche sur la photographie érotique, sur comment on peut regarder aussi ces imageries aujourd'hui. Mais je voulais vous parler aujourd'hui plutôt d'un moment entre la fin des années 1840 et le début des années 1860 de création d'un type de photographie qu'on va appeler la photographie de genre, qui a été très en vogue en France, en Grande-Bretagne notamment, qui est en fait une photographie posée, mise en scène, qui émerge à ce moment-là. Elle a souvent été rejetée par la suite parce que elle va quelque part à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la photographie comme enregistrement du réel, comme enregistrement du monde et sans travestissement. Or là, c'est au contraire, on est face à une photographie qui joue du travestissement et l'assume pleinement. Et ça pose une question importante en matière de naissance d'un art de la photographie. C'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut sortir du portrait stricto sensu, quand on veut pas forcément photographier sa demeure, son château. Qu'est-ce qu'on peut faire en l'absence d'instantanéité de la photographie ? Eh bien, on fait de la mise en scène. On s'inspire du théâtre, on s'inspire de la théâtralité et on s'inspire aussi de la peinture. Et donc, en ce sens, c'est pas cette photographie-là, c'est pas juste une réponse à une contrainte technique, mais c'est vraiment une réponse à un goût de l'époque pour une esthétique théâtrale et pour le tableau vivant. En 1839, l'année de la naissance du public du daguerréotype, on réinterprète sur scène à l'ambigu comique le radeau de la Méduse de Géricault. Et donc, en fait, il faut comprendre cette photographie dans cette perspective. À quoi elles ressemblent ces photographies de genre ? Parce qu'on ne les connaît pas forcément. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont produites à cette époque-là. Moi, je voulais vous parler d'un photographe qui s'appelle Louis-Adolphe Humbert de Mollard. Qui
pas
est
très
né
connu,
en...
hein.
Non. Né en 1800, mort en 1874, sur lequel a notamment travaillé Paul-Louis Roubert, et qui va réaliser de nombreuses photographies de genre, qui va être connu pour ça, et notamment dans le daguerréotype. Donc je vous ai apporté deux images, une de gens qui posent comme dans une scène de la peinture hollandaise, scène de taverne, et une jeune femme, jeune fille, à l'oiseau... mort, enfin, qui est censé être vivant, mais qui est totalement immobile, photographie oblige.
Une à chacun.
De lui, parfois, on connaît une image où il fait poser son intendant, Louis Daudier, l'intendant de son domaine, en prisonnier, là aussi avec une cruche et un boulet qui est accroché à sa cheville et qui semble à l'entrée d'une écurie. Et donc, il va réaliser beaucoup d'arrangements comme ça, de modèles vivants. Par exemple, il fait poser une femme et puis, d'une certaine manière, on a un daguerréotype et puis il lui ajoute des cartes dans la main et il l'appelle la bohémienne. Donc, c'est quelqu'un qui s'amuse de ces jeux entre peinture et photographie, qui regarde le XVIIe siècle hollandais, comme beaucoup de gens au XIXe siècle, et qui peut-être s'est inspiré dans l'une de ces images de Greuze.
Ah oui, celle-là.
Et donc, voilà, dans celle de la jeune fille avec cette cage et cette volière. C'est possible puisque, en fait, le 19e siècle redécouvre les salons de Diderot aussi, et Baudelaire notamment. Et donc... c'est possible qu'il les ait en tête. Enfin, ça c'est quelque chose peut-être à explorer aussi. Ce qui est certain, c'est que cette tendance de la photographie qui va quelque part un peu contre sa nature va faire bondir un certain nombre de critiques d'art et notamment Baudelaire dans son salon de 1859, dans son texte Le public moderne et la photographie, où il dénonce, alors pas Humbert de Mollard spécifiquement, parce que d'ailleurs on ne sait pas exactement ce qu'il a vu, mais cette nouvelle folie, ces abominations qui se produisent. Et donc, il a cette phrase, il dit « En associant et en groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces héros de bien vouloir continuer pour le temps nécessaire à l'opération leur grimace de circonstances, on se flatta de rendre les scènes tragiques ou gracieuses de l'histoire ancienne. » Donc, la photographie essaye de se hisser à la hauteur de la peinture, mais assez maladroitement parfois, sous la forme parfois aussi du déguisement, et ça donne naissance à la fois à une nouvelle, un nouvel imaginaire de la photographie, qui est celui d'une image jouée, d'une image performée, comme l'a appelé Michel Poivert, mais aussi à une sorte de réponse, d'un dialogue entre les arts, entre peinture et photographie.
D'un salon l'autre, de Diderot à Baudelaire, et toujours Guillaume Farou, cet oiseau en cage que vous, comme spécialiste de l'imagerie érotique chez Fragonard et chez Greuze notamment, en tout cas au XVIIIe siècle, vous reconnaissez bien.
Alors, simplement, l'oiseau, il est censé être vivant, hein, quand même.
Oui.
Hein. Alors, il n'est pas très frais, moi, je dirais qu'il est empaillé.
Il n'est pas frais. Il n'est pas frais, votre oiseau, il est totalement.
On le nourrit.
Après, effectivement, Greuze et Diderot sont redécouverts à ce moment-là, puisque il y a des extraits importants des salons de Diderot qui sont publiés dans la revue L'Artiste dans les années 1840, comme la grande revue des romantiques, etc. Donc, c'est quand même très accessible. Et j'ai envie de dire, le 18e siècle que nous aimons, il est totalement au nid dans la première moitié du 19e. C'est-à-dire que si on était allé au Louvre dans les années 1840 voir de la peinture française du 18e siècle, on n'aurait quasiment rien vu. On aurait vu Chardin et Greuze.
Oui.
Mais Greuze, lui, il échappe à ça. Et on le montre. Et d'ailleurs, on faisait allusion à cette paire de tableaux, La Malédiction paternelle. C'est un tableau qui est acheté dans les années 1820, à un moment où le musée n'a pas de crédit déjà, et achète très très peu, et achète vraiment quasiment pas de peinture du XVIIIe siècle, mais achète du Greuze. Donc Greuze, il est quand même très très présent. Et dernière incise, vous parliez de tableau vivant. Greuze, il est important parce qu'il a eu, il est inspiré du théâtre, mais il a inspiré le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines représentations théâtrales au XVIIIe siècle qui ont mimé, qui ont reproduit, notamment l'accordée de village. On l'a refait sur scène. Et Diderot, il est passionné par un théâtre qui sera un théâtre sans verbe, sans parole, parce qu'on appelle la pantomime. Et Greuze, il est vraiment totalement en adéquation avec ça.
Vous avez vu, Éléonore Chaline, cette exposition dont on parle au Petit Palais jusqu'au 25?
Moi,
qu'est-ce qui vous a intéressé?
Qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans? Les gravures, en fait, et comment les images se mettent à circuler par la reproduction.
Ah ben.
Parce que justement, on sait que le 19e siècle préfère le 17e siècle et que le 17e siècle est aussi redécouvert à cette époque-là. Et donc, je me demandais qu'est-ce que les contemporains connaissent du 18e siècle. Donc, Guillaume Farou l'a déjà un petit peu abordé. Mais aussi, est-ce que ces images de Greuze, est-ce que les gravures continuent à circuler? Elles sont collectionnées aussi
La vie est bien faite, vous savez, Éléonore Chaline, parce que justement, une des spécialistes du rapport entre Greuze et ses graveurs, enfin en tout cas qui en a parlé dans le livre « Vendre son art » avec Sophie Crass, bah, c'est Charlotte Guichard, justement. Et il y a, c'est vrai, dans l'exposition, toute une section très intéressante sur les rapports, et avec les contrats et tout, de Greuze et de ses graveurs.
Oui, et il faut dire que c'est une exposition vraiment passionnante qu'il faut aller voir, vraiment avec un propos qui présente Greuze sous un nouveau jour, hein, donc ça c'est passionnant pour ceux qui aiment le XVIIIe siècle. Et oui, alors ce qui est très intéressant dans cette salle, c'est qu'on voit comment Greuze va véritablement diffuser sa peinture à travers la gravure. Et ça c'est complètement nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau en fait? C'est qu'il va contractualiser la production des gravures tirées de ses tableaux. Ce qu'il faut savoir, et c'est en effet ce qu'on a évoqué dans le livre avec Sophie Crass, c'est que les peintres à l'époque n'ont pas le droit de reproduire leurs œuvres. Le droit de reproduction appartient au propriétaire du tableau. Et donc, ce que va faire Greuze, à la fois pour s'assurer de la qualité des gravures qui vont être faites de ces tableaux et pour s'assurer une rémunération, il va contractualiser les reproductions avec des graveurs de très bonne qualité. On a dans l'exposition, je crois, le contrat avec Flipart, notamment de l'accordé de village. Et donc, il va vraiment, comme Hogarth, hein, 30 ans plus tôt, s'assurer de ce marché de la gravure qui va vraiment asseoir sa réputation. C'est pas juste une question de réputation un peu abstraite, c'est que c'est la qualité et le prix de ses gravures qui va l'inscrire vraiment dans la société de son temps. Et donc on dit que Greuze aurait gagné plus de 300 000 livres avec ses gravures, ce qui est considérable, bien plus considérable que le marché pour ses peintures.
Oui.
C'est quelque chose de vraiment nouveau.
C'est ce qui explique donc la carrière de ces images, Éléonore Chaline, jusqu'à vos photographes.
Ouais, oui, je pense qu'il y a quand même un vrai goût. Et puis, ce photographe amateur, il est amateur d'art, il est collectionneur. Donc, bon,
je ne sais pas exactement ce qu'il connaît, mais il s'intéresse beaucoup à la peinture. Et il a une femme qui est peintre, lithographe, graveuse aussi. Donc, j'imagine qu'il y a toute une circulation de ces imageries qui, par ailleurs, peuvent être aussi des sujets adaptables à la photographie. On voit tout le côté artificiel que ça, mais en même temps, ce sont des sujets un peu de la vie quotidienne où la photographie essaye de représenter des émotions et c'est... Évidemment, ce saisissement de l'émotion est difficile en photographie.
Alors, vous aimez le XVIIIe siècle, hein, Charlotte Guichard et Guillaume Farou, ça, on l'a bien entendu, mais on ne l'a pas toujours aimé. Enfin, je veux dire, y compris Greuze, il a eu des éclipses dans sa postérité. Comment, au fond, vous pourriez raconter, justement, ce moment-là, on est en 2025, c'est les 300 ans pardon, de sa naissance. Quelle a été en fait l'histoire de sa réception ?
Alors je dirais qu'il a été décalé par rapport aux autres artistes du XVIIIe siècle qui, eux, ont connu tout de suite, sinon l'oubli, en tout cas le discrédit. C'est-à-dire vraiment avec l'école Davidienne, autre belle exposition à aller voir en ce moment au musée du Louvre. Vraiment, dès la fin du XVIIIe siècle, Fragonard, Hubert, enfin c'est fini pour eux. Alors que Greuze, pas du tout. Parce que justement, Greuze, il est quand même porteur de cette morale laïque, de cette morale qui est travaillée, qui est traversée par la peinture et que la peinture essaie de représenter. Et en gros, c'est plutôt ça qui a assuré son succès pendant tout le long du XIXe siècle. Et j'ai envie de dire que lui, il connaît un discrédit au XXe siècle.
C'est ça.
Et il est discrédité parce qu'on en fait un artiste moral. Et c'est les extraits que vous citiez au début de l'émission. Et je pense que c'est peut-être aujourd'hui qu'on peut retrouver la très grande complexité et la richesse de ce qu'il propose.
Et pour la retrouver, cette complexité et cette richesse, Charlotte Guichard, il faut évidemment pointer les ambivalences au fond de cette morale et son extraordinaire talent de peintre pour les rendre justement par l'image.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la grande leçon de cette exposition, je crois, hein, que de montrer Greuze sous un jour nouveau, dans toute sa complexité. On peut plus simplement le voir comme le peintre du roman familial, ou alors, comme dirait Régis Michel, c'est le roman familial de la névrose, dans cette exposition de 2000 qui avait fait scandale, mais en même temps qui nous obligeait à regarder grand cette peinture du Louvre en particulier. Donc oui, Greuze, c'est un peintre très intéressant. La question, c'est pas pour moi vraiment d'aimer Greuze ou pas, mais je le trouve passionnant. Là encore, c'est le pouvoir de l'image. Cette image qui nous dit quelque chose que les textes
ne nous disent pas. Qui trahit.
C'est le symptôme. Caracalla, c'est le symptôme de cette incommunicabilité entre le père et le fils, quelque chose qui ne s'exprime pas véritablement sous cette forme-là à l'époque, mais qui est magnifiquement en fait exprimé dans ce tableau qui a été refusé par l'Académie comme peinture d'histoire.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Charlotte Guichard, Guillaume Farou et Éléonore Chaline. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Nicolas Leroulet et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.